Bonjour à tous et bienvenue dans L'Art, c'est les autres. Moi, c'est Leslie Lucier et je fais partie du réseau des artistes Pigeons et Hirondelles qui est basé dans Lyon. Dans ce podcast, je vais à la rencontre des acteurs du monde de l'art. Ce sont des passionnés qui vont nous aider à décrypter les milieux de l'art contemporain. Pour tous ceux comme moi qui ont envie d'y évoluer. Alors mon objectif, ça va être de remettre mes connaissances, mes jugements en jeu, grâce à ces mentors qui, pendant quelques dizaines de minutes, vont nous donner de précieux conseils, vont nous donner leur philosophie et tout ce qu'ils mettent en place dans leur quotidien et qu'on pourra appliquer, pourquoi pas, à nos propres projets. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à commenter les épisodes sur votre appli de podcast. C'est ce qui me donne le plus envie de continuer. En tout cas, merci d'être là et je vous laisse avec l'épisode de la semaine. Alors aujourd'hui, je rencontre le collectif Kaleidosco, une société coopérative de 5 artistes verriers. J'ai décidé de les rencontrer parce qu'elles ont monté un collectif, que ça fonctionne plutôt pas mal, dans les bas comme dans les hauts, et j'aimerais avoir leur avis sur comment, en tant qu'artiste ou artisan, on se regroupe et comment on gère au mieux cette réunion. Voilà, bonjour les Kaleidosco, on a Lucie et Joanne. Bah, est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Kaleidosco, c'est une coopérative. Et c'est un collectif de 5 créatrices d'objets en verre. Du coup, il manque Claire, Angèle et Charlotte.
On est implanté en Lorraine depuis septembre 2016. Voilà. Donc, ça fera bientôt 3 ans.
Ouais. Et on a ce projet depuis 7 ans.
En fait, ça fait un petit moment que j'ai envie de vous interviewer parce que on voit certains collectifs qui se montent et c'est souvent un truc qui, en tant qu'artiste, peut être une solution, soit pour de la mutualisation, soit de compétences, soit d'outils, soit de choses comme ça. Et je me demandais si vous aviez éventuellement des conseils à des artistes ou des artisans qui voudraient monter un collectif.
Moi, j'avais vachement aimé le fait de visiter plein de collectifs. Parce qu'en fait, il y a plein de manières de travailler en collectif. Il y a des gens qui partagent juste un espace, mais après, dans cet espace, ils font chacun leur activité. Il y a des gens qui sont en vraie coopérative, donc où là, ils vont partager toute la production. La frontière entre l'individu et le collectif, elle est à différents degrés selon les modèles. Et c'est vrai que c'était super ça, ce moment, ce temps qu'on avait pris pour faire des visites.
Alors, vous aviez été où un peu les lieux qui vous ont marqué ?
Ben, la Briche,
à Saint-Bruny, ouais.
Et c'est le seul où on allait toutes les 5 ensemble.
Bah après on est allé voir Inbo.
Ah oui, c'est vrai, ouais. Une entreprise de 5 ébénistes hommes. Enfin maintenant ils sont 12, je crois, ils ont embauché. Donc eux, ils ont une formation d'ingénieur, mais ils sont au début chacun a développé un objet et ils ont créé une entreprise dans laquelle ils fabriquent maintenant ces objets en série, donc ils sont vraiment plus dans une logique vraiment de production, ça n'a rien d'artistique, mais ça marche super bien. Et à la base, c'était une bande de copains. Et puis après, on en a visité chacune un peu sur nos parcours. Moi, je me souviens à Strasbourg aussi, j'étais allée à des ateliers ouverts d'artistes, et puis il n'y avait pas l'un d'ateliers collectifs. Enfin bon, après, c'est un truc quasiment quotidien, quoi, dès qu'on entend parler de...
Ouais. Puis au final, tu te rends compte qu'il y a quand même pas mal d'artisans, artistes qui se regroupent parce que c'est plus simple.
Ouais.
Dans les grandes villes comme Paris, au final, ça se fait beaucoup quand même d'avoir un seul lieu et...
Nous, c'est vrai que c'était une solution pour démarrer. Je pense que c'est une notion qui est importante aussi parce que on avait fait des formations, on savait ce qu'on allait faire, mais on n'avait pas vraiment eu d'avant notre métier, qu'est-ce que ça va donner. Et c'était un moyen de se regrouper pour pouvoir commencer à créer quelque chose.
Ouais.
Et c'est vrai que cette notion, moi, je trouve que c'est aussi important. Mmh. C'est comme une première étape dans la vie professionnelle pour nous et qu'on voulait pas se lancer seul pour pouvoir...
Mutualiser des locaux, machines, l'achat de matières premières.
Une fois que t'as un peu démarré dans ce métier, que t'as déjà tout ça, au final, tu peux avoir envie de te regrouper, mais c'est pas forcément pour les mêmes raisons. Nous, il y avait quand même une grosse partie où c'était pour pouvoir nous permettre de monter cet atelier ensemble aussi.
Bah aussi parce que les métiers du verre sont vraiment chers et que du coup, avoir un atelier de verre quand on démarre une activité, c'est quasiment inaccessible à moins d'avoir une famille super riche, enfin, ou un mécène, quoi, mais tu peux pas démarrer et avoir un atelier équipé, quoi. Alors que là, à 5, bah, déjà, même en se cotisant nos petits apports, ça faisait déjà une petite base, et puis après, on a pu aussi porter un projet pour, comme tu disais, gagner des concours. Et qu'on n'aurait pas gagné toute seule, parce que clairement, c'était pas des concours qu'on a gagnés par rapport à nos pièces. C'était des concours qu'on a gagnés par rapport au concept de notre entreprise, quoi.
Ah oui, d'accord.
On a présenté notre collection de vaisselle, mais notre collection, c'était un outil de communication. Je suis pas sûre que quelqu'un qui aurait présenté cette vaisselle tout seul, il aurait gagné le prix. Là, on était 5 femmes.
C'est un peu de l'amour, quoi, en ce moment.
Mais c'est ça, on était vraiment dans le truc à la mode de mutualiser, de coopérer. Du coworking, enfin tous les trucs en co qui sont à la mode. Donc ça, c'est grâce à ces concours surtout qu'on a pu acheter le matériel. Et c'est vrai que en un an, on avait déjà énormément de matériel par rapport à quelqu'un qui se lancerait tout seul.
Oui, mais c'est vrai que j'avais pas fait ce rapprochement si clairement. C'est complètement votre histoire qui fascine, qui fait que votre idée elle plaît.
C'est aussi, on est 5 filles.
Oui.
Il y a aussi le côté féminin. Il y a le côté de se regrouper, de monter un truc.
Féminin dans l'artisanat.
Et le féminin en plus. Dans l'artisanat, ouais. Qui était porteur, quoi. Il y a ces deux domaines. On a gagné des concours pour les deux notions, de collectif et
de femme.
Et dans le verre.
Et dans, en fait, faire un truc de ses mains. Parce que le verre, je sais pas si c'est particulièrement le matériau verre, mais c'est juste de créer quelque chose, d'un travail qui a du sens, du métier passion, du métier local. Enfin, ça, c'est vrai que ça cristallisait pas mal de concepts en vogue, quoi.
Ouais.
Et puis après, je pense que quand on fait un oral de concours où on se déplace à 5, les gens, ils sentent que ça se passe bien dans notre groupe, enfin qu'il y a un équilibre.
Il y a une force... Il y a une force qui se dégage encore plus, je trouve, quand on est 5, que on arrive quand même à se compléter. Ça fait quelque chose de global.
Puis le fait qu'on se connaisse très bien, parce que du coup, avant de créer Kaleidosco, on a fait 2 ans de formation ensemble, on était en colocation. Ensuite, on est parti à l'étranger, donc pas tout ensemble, mais enfin certaines avec certaines autres. Et puis on s'est revus, et après on a refait un an de création d'entreprise toutes les 5. Et on a un lien qui est vraiment fort, qui fait que on sait qui a sa place à quel moment.
Ouais.
Et dans un oral, c'est clairement ça, quoi. Donc Claire, elle fait les chiffres, les diagrammes. Angèle, c'est elle qui commence parce qu'elle a un truc un peu dynamique. Et puis, c'est celle qui est la plus à l'aise pour détendre une atmosphère au début. Avec Joanne, on complète au milieu.
Charlotte, elle est plus pragmatique. Ouais. Elle va montrer les choses ou va parler de choses... pratique ou...
Mais est-ce que ça, au début, quand vous êtes montée, vous l'avez verbalisé entre vous? Alors, c'est-à-dire, bon, déjà, toute cette histoire d'un groupe de 5, donc le collectif, le fait d'être des filles, bon, tout ça, qui aujourd'hui font partie de ce que vous racontez, mais est-ce que vous l'aviez compris à l'époque où vous avez pensé à créer une entreprise ensemble?
Ouais, moi je pense que oui.
Ouais.
Le côté femme, moi j'y avais moins pensé. Personnellement, mais le côté mutualisation, coopération, j'avais lu pas mal de bouquins et je voyais bien que c'était un truc dont on parlait de plus en plus. Et je me souviens qu'on a fait les valeurs. Donc avant de créer l'entreprise, on s'était réunis et puis on avait fait des listes de nos valeurs et on avait choisi des mots-clés. On commençait à penser aux mots-clés pour le site internet. Et du coup, on voyait que c'était des choses qui pouvaient marcher. Et après, ça a pris... Enfin, ça a été confirmé au fur et à mesure des concours ou des interviews, des choses comme ça, quoi. Mais
donc, ça veut dire que quand vous avez décidé de vous lancer, ce que tu es en train de dire, c'est que vous avez commencé par voir les valeurs que vous aviez en commun et construire l'entreprise autour de ça, ou c'est...
Après, ça a vraiment commencé il y a quand même longtemps. On était encore en formation quand on a commencé à parler de cette idée-là.
Ça fait 7 ans.
Ouais, du coup, ça fait 7 ans. Donc, c'était grosso modo la deuxième année de CVE. Et on commençait un peu à parler, mais du coup, on avait juste une idée vague de qu'on voulait monter un atelier tout ensemble. Et après, comme pendant 2 ans, on est parti à l'étranger, on a travaillé, enfin, on n'était plus vraiment ensemble. Pendant ces 2 années, on a quand même pris le temps chacune de réfléchir à cette idée. Puis voilà, ouais, on s'était retrouvés, on avait commencé à faire des recherches.
On était allé à une réunion de l'URSCOP.
Oui.
Pour savoir un peu le statut coopératif, comment ça marchait.
On était entrés en contact avec, dans le Forez, là, ah pour, oui. Pour un local. Ouais. Tout ça avant de faire la formation concrète, quoi. C'est vrai que du coup, quand on est rentré dans la formation concrète, alors c'est concepteur-créateur, c'est une formation pour toutes les personnes en métier d'art qui veulent développer un projet professionnel.
Mmh. Avant de rentrer en formation, vous avez déjà commencé à compiler tous vos... Mmh.
Bah, on savait dans quelle direction on souhaitait aller et on fallait qu'on se retrouve pour qu'on puisse se mettre... sur la même longueur d'onde, je pense. Mmh. C'était quand même super important qu'on soit toutes les 5 à ce moment-là pour se retrouver, pour vraiment réfléchir ensemble sur les lignes directrices de...
Et nous, on avait fait, pendant l'année de formation à création d'entreprise, on avait fait un schéma, un organigramme, donc c'était sur une feuille A3, où on essayait de définir la place de chacune et quelles étaient nos relations. Donc c'était un schéma avec plein de flèches que nous on arrivait à comprendre, mais après à présenter, genre on l'avait amené à l'URSCOP pour le montage du statut et puis elle nous avait regardé bizarrement, mais c'est un peu voilà savoir quelles interactions on veut avoir et savoir qu'on allait même enfin vraiment partir sur une base où on est d'accord quoi.
Ouais.
Et le verbaliser le plus possible parce que en fait souvent, on croit que tout le monde a la même idée d'un ouais. collectif. On a l'impression qu'on est sur la même base. Et en fait, non. Et c'est avec le temps, et c'est petit à petit en mettant des mots qu'on peut se rendre compte que s'il y avait un décalage. Et nous, déjà nous, on se rend compte qu'il y a ce décalage, alors qu'on a quand même mis 1 an. On faisait des réunions tout le temps, enfin pendant cette année.
Alors création. Tout le temps, ça veut dire quoi exactement?
Enfin, ouais. On était tout le temps ensemble, tous les jours, quoi.
Et vous faisiez des... Enfin, vous réunissiez tous les jours?
On avait une salle de travail pour nous, dans l'école. Du coup, on affichait nos trucs. Enfin, chacune rajoutait tout le temps des choses. Et puis...
On se réunissait pas tous les jours, mais par contre...
Très souvent, quoi.
Très souvent, parce que même quand on avait un cours sur... par exemple, je me souviens du site internet. Bah, pendant ce cours-là, fallait qu'on réponde à des questions... Bah, du coup, on était obligés de se réunir pour savoir
et ouais.
qu'est-ce que toutes les 5 on voulait dire.
Et puis même, oui, on avait les cours de marketing. Enfin, à chaque fois, en fait, dans chaque cours qu'on avait, on nous demandait de défendre notre projet. Et du coup, chaque cours était comme une réunion, en fait, où il fallait qu'on définisse les choses.
Ouais, bien sûr.
Et ouais. ça, je pense que c'est super important, quoi, de savoir quand même... qui va dans quel sens et comment on peut s'entendre avec aussi les différences de points de vue quoi. Enfin moi je me rappelle de moments qui étaient assez tendus aussi où j'avais l'impression qu'on n'était pas du tout d'accord et puis après en fait ça dépend aussi vraiment du temps qui passe, de comment chacun va écouter les autres dormir là-dessus et puis faire évoluer sa propre vision quoi.
Ouais. Et après il y a l'après. Une fois qu'on avait réussi à tout poser au clair et qu'on pensait être aussi sur, enfin, plus ou moins sur la même longueur d'onde, bah, le temps passe et les choses elles bougent. Enfin, au final, parce qu'il y a aussi beaucoup de théorie, puis après il y a la pratique. Mm. Et je trouve qu'il y a aussi ça là pendant ces 2 ans. Il y a aussi comment chacune on a vécu tout ça et que ça a fini aussi par évoluer dans nos têtes, dans une direction, dans une autre. Et du coup, ça a fait changer les choses. Mm. On voit plus forcément les choses de la même façon.
Oui, puis même au début, du coup, on était vraiment quasiment que dans le collectif toute la première année parce qu'il fallait tout mettre en place.
Et oui, oui.
Du coup, à un moment, on est arrivé à une sorte de stade d'asphyxie où juste on n'avait pas le temps de développer nos projets, qu'à la base, c'était censé être une structure qui nous aidait à nous épanouir. Et en fait, on avait l'impression d'être des esclaves de Kalidosco qu'on avait nous-mêmes créé, quoi. Et puis après, ben, du coup, face à cette saturation, il y a eu une sorte de mouvement de recul et chacune est repartie un peu plus sur son propre terrain. Et là, enfin, du coup, ça crée un équilibre différent d'une année à l'autre. C'est pas la même façon d'être au quotidien, pas les mêmes manières d'être ensemble non plus.
En fait, c'est vrai que ça me fait rire parce que j'ai l'impression souvent qu'on disait qu'on passait beaucoup de temps à essayer de se mettre d'accord sur comment les choses allaient être et devaient être, et qu'on passait beaucoup de temps à faire des réunions. Et on se disait, bon, bah, c'est bon, ça, c'est fait. Et en fait, on se rendait compte que quelques mois plus tard, fallait encore qu'on revienne dessus, et que c'était, en fait, non, c'est jamais fini.
Toujours
revenir. Et des fois, il y avait des sensations d'un peu de recul, quoi, quand on revenait en arrière, mais en fait, c'est juste que les choses.
Sur quoi, par exemple?
Elles évoluent. Ça s'applique pas forcément.
C'était
toujours
beaucoup par rapport au système de compta, de gestion et de refacturation. Et en plus, on était accompagné par une coopérative d'activité d'emploi qui était un peu comme une couveuse, donc qui accompagnait chaque individu plus Kalidosco en collectif. On avait un compte bancaire Kalidosco chez cette coopérative d'activité d'emploi, et on avait aussi le compte bancaire Kalidosco coopérative avec notre propre carte bleue professionnelle. Et il y avait des interactions. Quand on achetait un truc, on savait pas avec quoi fallait le payer, où est-ce qu'il fallait envoyer la facture. Enfin, ce truc-là, ça a pris un temps fou, quoi.
Ouais.
Par exemple.
Oui. C'est ça, c'est qu'en fait, oui, c'était beaucoup la gestion et l'organisation entre nous cinq. Et donc Kalidosco, et Kalidosco entre Kalidosco la coopérative et Kalidosco Art en Réel.
Mais parce que je comprends pas, vous aviez deux comptes Kalidosco?
Oui.
Alors, la coopérative?
Ouais, et en fait, on était dans une coopérative d'activité d'emploi qui est un peu comme une couveuse qui aide au démarrage.
Mais pourquoi vous n'utilisiez pas le même compte bancaire pour les...
Parce que pour la société SARL Kalidosco, on a été obligé d'ouvrir un compte.
Mais alors, ça veut dire que Kalidosco, c'est une SARL?
Une SARL coopérative, loi 45.
47.
Et du coup, c'était une coopérative de biens et de moyens. Ça, c'était vraiment pour nous aider à gérer pour nous permettre de gérer le local, principalement. On était obligés, on pouvait pas, l'une d'entre nous pouvait pas détenir le bail. Oui. Fallait que ça soit la coopérative, et du coup, fallait payer le loyer.
Et les achats de matières premières.
Oui, mais au final, les achats de matières premières, on aurait très bien pu quand même les acheter avec la coopérative.
Oui.
Art en Réel.
Oui. C'est que dans un premier temps, eux, ils voulaient pas nous prendre en tant que collectif. Voilà. Après, ils se sont rendus compte que du coup, il y avait beaucoup de mouvements qui leur échappaient, de mouvements d'argent. Et ils se sont dit, par exemple, elles ont une collection commune, donc elles font de la production en commun. Donc c'est comme si Kalidosco était un entrepreneur qu'on peut couver, même s'ils sont cinq, en fait, en un, quoi. Et du coup... Art en Réel, donc cette coopérative d'activité d'emploi, on peut l'appeler couveuse si c'est plus simple parce que... elle gérait la collection commune et les commandes groupées.
Et les commandes groupées.
Plus les sorties qui étaient le loyer, les matières premières.
Non,
et tout.
Ça c'était la SARL coopérative.
Oh pétard.
Voilà.
Et après, on a donc supprimé Kalidosco couvé. Et on s'est juste géré en tant que coopérative puisque c'était vraiment compliqué les
interactions. Ah oui, c'est sûr. Ouais. Donc par exemple, c'est une, c'est un conseil que vous pourriez donner, c'est de ne pas faire ça, quoi.
Je pense que ça viendrait pas l'idée de beaucoup de gens déjà de trouver un truc aussi compliqué.
Nous, en fait, c'est quand même, je pense que pourquoi on a trouvé un truc aussi compliqué, c'est que pendant un an, on a essayé de se mettre d'accord sur les interactions qu'on voulait entre l'individu et le collectif. Donc du coup, on avait imaginé genre l'idéal, le truc qu'on aurait aimé avoir. Et du coup, il fallait qu'on arrive à le mettre en pratique. Moi, en tout cas, pour mon avis, le truc à faire en premier lieu, c'est peut-être de commencer en testant. Donc de faire un truc qui soit le moins compliqué possible au début.
Donc, juridiquement?
Ouais, alors bon, on était obligé de monter là cette coopérative, mais sauf toutes les interactions, on avait, du coup, ça devenait une machine à gaz, quoi. Enfin, ça nous prenait, mais un temps pas possible à gérer, quoi. Alors que, en fait, dans les débuts, faut faire quoi? Faut juste bosser, savoir.
Tu vends rien, quoi. Du coup, c'est fou de passer ton temps à faire de la compta, alors qu'en fait, concrètement, t'as rien vendu, quoi.
Ouais.
C'est juste de savoir comment. Là, on a vendu un truc. Comment on fait pour le rentrer dans la gestion?
Ça nous prenait pour 30 euros, on pouvait passer 3 heures de réflexion, quoi.
Mais alors, du coup, une question que vous allez certainement trouver très bête, mais pourquoi vous n'avez pas juste monté une association?
On avait tout de suite imaginé l'entreprise idéale qu'on aimerait avoir in fine.
Et donc ce modèle, c'était une coopérative, mais où chacune travaille sur ses propres créations et est salariée de cette coopérative, mais se rémunère au prorata de ce qu'elle, elle a produit et vendu. Sauf que en fait, au démarrage d'une coopérative, pour créer une coopérative qui soit pas loi 47, pas juste une coopérative de biens et de moyens, il faut au minimum pour une SCOP 2 salariés. Et c'était pas possible. Enfin, dans les métiers d'art, tu commences pas par avoir 2 salariés, quoi. Et du coup, ben, on a choisi un statut de coopérative qui pouvait évoluer en SCOP, dans l'idée qu'on allait être en couveuse et qu'au fur et à mesure qu'on sortait de la couveuse, on allait se salarier.
J'imagine que quand on se regroupe à la suite d'une formation comme vous, on a un petit peu envie de garder l'émulation. Comment on passe de cette espèce d'envie au fait de créer une boîte? Est-ce que vous avez des choses à conseiller?
Être à plusieurs, ça nous permettait financièrement de pouvoir monter un atelier de verre qui est très coûteux et qu'on peut rarement se financer quand on est un verrier qui se lance tout seul. Ça nous permettait de pouvoir faire des commandes aussi à plusieurs. Vu qu'on est spécialisé dans différents métiers du verre les unes les autres, on est assez complémentaires et on peut répondre à des choses assez larges.
Par exemple,
ça va en termes techniques, ça va du soufflage de verre à pâte de verre, vitrail, thermoformage, fusing, peinture sur verre, donc du 2D, 3D. Avec différents rendus de matière selon les envies, quoi, du client. Donc il y avait ça, donc le côté financier, le côté d'avoir de la main d'œuvre, pouvoir faire un projet à plusieurs. Il y avait aussi d'être dans un environnement stimulant. Il y avait aussi qu'on avait du mal à envisager de pouvoir gérer toutes les casquettes de l'entrepreneur. C'est-à-dire, quand on démarre une entreprise, il faut faire du secrétariat, faire de la comptabilité, faire des dossiers pour des financements. Faut faire un site internet, il faut faire une carte de visite. Toutes ces choses-là, ça demande des compétences qui sont très variées. Il faut réparer des machines quand on n'a pas assez d'argent pour acheter des machines toutes neuves. Et du coup, on avait des compétences différentes les unes des autres.
Ouais, qui vous ont permis de...
Qui étaient complémentaires et qui nous permettaient d'un coup que ce soit beaucoup plus réalisable de monter un projet à plusieurs, quoi.
Ouais, ok.
Voilà.
Donc vous avez finalement beaucoup plus de possibilités parce que vous divisez le travail en 5, mais la question c'est est-ce que ça multiplie les problèmes aussi par 5?
Non.
Ouais, après c'est vrai que souvent quand même, les gens ils ont l'impression que c'est vachement plus simple parce qu'on est 5, parce qu'effectivement on peut se répartir les tâches, mais au final il y a quand même aussi d'autres choses. Quand t'es tout seul, tu peux parler à toi-même, tu peux t'expliquer les problèmes à toi-même. Là, faut faire énormément de communication, de médiation, d'arriver à trouver des compromis pour que ça convienne à tout le monde. Et puis, c'est une force. Ça peut être aussi pris parce que du coup, ça fait grandir les choses. Mais pour moi, c'est pas forcément plus simple parce qu'on est 5 quand même. Enfin, après, c'est pas forcément plus compliqué non plus.
Oui, oui.
Parce qu'il y a des choses qui sont facilitées et d'autres choses qui sont un peu.
Tu vas plus loin mais moins vite, quoi.
Après, plus vite mais moins loin.
Ah ouais.
ça dépend, ouais. Parce que franchement, d'être des fois 5, effectivement, on va être plus efficace sur certaines choses.
Ouais.
Donc au final, oui, ça peut s'appliquer dans tous les sens du terme en fait.
Ouais, et puis j'imagine, alors je sais pas, hein, peut-être que c'est juste mon imagination, mais du coup, Quand vous faites une présentation, par exemple, chacune a son rôle, il y en a une qui commence, l'autre qui termine, une qui a les chiffres, les statistiques, tout ça. Déjà, d'une part, je me demande si c'est des choses que vous avez clairement définies ou qui se sont mises en place doucement. Et d'autre part, est-ce que le fait d'être 5 et de pouvoir se diviser la tâche, c'est-à-dire de dire « bah toi, tu vas travailler sur la compta, toi sur le graphisme, toi sur autre chose », bah, finalement, vous montez chacune en compétence sur un truc particulier. Et ça peut être une aide aussi ou pas du tout, en fait.
Ouais. Alors, juste... Par rapport à comment on s'est attribué les casquettes, je pense que c'est venu un peu au fil du temps, pendant l'année de concret.
Ouais.
Quand on a fait la formation concepteur-créateur au CERFAV, ça nous a permis déjà du coup de se mettre au diapason sur qu'est-ce qu'on voulait faire ce collectif. Et ça nous a aussi permis juste de voir quelle place on allait prendre chacune en fonction de nos dispositions, de nos affinités, et puis ce qu'on avait envie chacune de faire avancer au final.
Mais c'est vrai que du coup, je trouve qu'on est monté en compétences dans nos casquettes.
Oui,
et
voilà.
Ouais. Par exemple, toi, ça t'a fait un vrai challenge de faire le graphisme du site internet, le logo. Et ça t'a lancé et maintenant, c'est devenu des habitudes. Enfin, t'as plein de choses qui sont devenues automatiques. Ça t'intéressait déjà avant, mais là, ça donnait un cas concret. Claire et Charlotte en compta, par exemple, maintenant, elles sont super calées. Parce que du coup, elles ont suivi une formation avec une comptable. Et maintenant, c'est elles qui s'en occupent. Et nous, quand on essaye de mettre le nez dedans, on comprend la moitié des choses. Il y a tellement de codes, de clients, de machin, que juste, c'est leur langage, quoi, maintenant. Donc, moi, je trouve que ça nous a permis de nous spécialiser et du coup, d'être plus performantes.
Ouais.
Voilà.
Et toi, Lucie, tu...
Moi, je fais les dossiers. Donc là, on fait moins de concours maintenant, donc j'ai moins de travail. Mais je faisais beaucoup de la rédaction de dossiers. Et les oraux, les relations avec les journalistes. Je réponds aux mails. C'est un peu plus divers, en fait. Donc,
Communication au sens large, quoi.
Ouais. Dans la rédaction de dossiers, si. Par contre, maintenant, j'ai l'impression que ça va tout seul, quoi.
Faudra que...
Aussi.
Que je vienne tôt.
Mais bon, c'est moins précis que les autres personnes. Et Charlotte, par exemple, elle s'occupe des commandes de matières premières aux fournisseurs et de l'entretien des machines. Et elle seconde Claire dans la comptabilité. Et c'est pareil, en bricolage, elle est montée en compétences.
Mmh.
Angèle, elle s'occupe de la communication secrétariat. C'est beaucoup elle qui répond au téléphone. C'est elle qui ouvre le courrier, qui fait les chèques. Dans la rédaction de dossiers, on travaille aussi ensemble. Et elle aide aussi Charlotte pour les machines, pas mal. Donc elle est multitâche, un peu comme moi.
Mmh. Ok.
Du coup, avec ces quelques années de Kaleidosco, les choses, elles ont quand même vachement évolué depuis le début, même entre nous. Avant, voilà, on voulait quand même rester un peu nous cinq, parce que c'était déjà assez complexe à gérer quand même à cinq, au niveau réunion, se mettre d'accord. Et au final, on fonctionnait bien, toutes les cinq.
Oui, il fallait faire les fondations.
C'est comme un organisme où chacun... Et un organe, et puis du coup, Kaleidosco, c'est le corps qui fonctionne grâce à ces organes. Et du coup, on se disait, bon, rajouter un organe...
C'est un peu complexe, surtout qu'on était encore en train de mettre en place les choses, quoi. Donc du coup, c'était délicat. Bon, après, du coup, moi, entre autres, je suis plus, pour des raisons personnelles, je suis physiquement plus vraiment à l'atelier.
Donc toi, tu travailles aussi à Paris, c'est ça?
Oui, voilà.
Okay.
Je travaille plutôt à Paris, donc là depuis un petit moment. Donc je suis plus non plus là pour soutenir l'activité de Kaleidosco. Et donc il a fallu trouver des solutions pour contrebalancer le manque de...
Les frais quotidiens.
Les frais quotidiens là, que je pouvais plus assurer. Donc du coup on a ouvert l'atelier, on a ouvert des espaces de coworking.
Pour des métiers plutôt créatifs.
Ouais, pour des métiers plutôt créatifs.
Et pas tellement dans le milieu du verre, j'imagine, si?
Bah en fait, du coup, là, on n'a pas ouvert Kaleidosco, on a ouvert l'espace de travail. Et on a ouvert notre atelier à d'autres.
Oui.
Après,
si... Qui est disponible à la location, c'est ça?
Alors, il est disponible pour des verriers à la location ponctuellement. Et on a un espace de coworking. Mais du coup, c'est pas Kaleidosco qui s'est ouvert.
Oui, bien sûr.
C'est notre
oui.
lieu de travail qui s'est ouvert.
Oui, oui, tout à fait.
Et intégrer des verriers, ça posait la question de est-ce qu'on les intègre au lieu de travail ou est-ce qu'on les intègre à Kaleidosco en tant qu'entreprise.
Mmh.
Parce que du coup, Kaleidosco, maintenant, c'est un espace, un atelier qui est très grand et où du coup, il y a aussi des charges et tout ça qu'il faut qu'on assume et qu'on n'utilise pas forcément dans son intégralité et dans ouais. toutes ses possibilités. D'où l'intérêt d'accueillir des gens dans l'espace atelier. Accueillir des gens dans l'entreprise, c'est autre chose parce que du coup, ça veut dire... Comme je disais, rajouter un organe dans un corps qui fonctionne pour l'instant comme il est. Et du coup, dans un premier temps, on voulait pas accueillir de verrier. Là, on commence à se dire que ça pourrait quand même être bien parce que du coup, il pourrait vraiment profiter de toutes les machines par rapport à un autre coworker qui a juste un bureau. Un verrier, c'est beaucoup plus intéressant pour lui de venir jusqu'à Favière parce que, en termes d'offres, on a un atelier équipé. Mais du coup, on n'a pas statué encore sur de quelle manière il intégrait la vie. Est-ce qu'il intègre l'entreprise ou est-ce qu'il intègre le bâtiment ? On est plus pour l'instant sur le bâtiment. Voilà. Après avoir comment ça évolue, peut-être que dans un premier temps, c'est bien que la personne ait sa propre entreprise, sa propre activité, continue à faire ses trucs et bénéficie du local, et puis voir comment ça se passe, comment ça évolue, et puis dans un second temps l'intégrer à l'entreprise.
Oui, puis l'intégrer à l'entreprise, quel bénéfice il pourrait en avoir ?
Ça lui fait un statut.
Oui, c'est vrai qu'à part ça. À part ça, parce que de toute façon, on a tout individuellement un statut. Donc oui. C'est ça au final, c'est juste que pour le moment, la structure Kaleidosco, elle est encore en construction. Quand même.
En fait, l'intégrer, si on intégrait un verrier, par exemple, il serait sur notre site internet.
Oui, voilà.
Il serait un créateur de Kaleidosco.
Il bénéficierait d'autres choses, mais en contrepartie.
Donc, tu vois, par exemple, si c'était un homme qui arrivait, du coup, on serait plus 5 femmes. Concrètement, ça change l'identité qu'on nous a toujours attribuée. Et en même temps, ça peut être chouette. Tu vois, ça peut être chouette que ça change, ça peut être chouette que y ait plein de nouveaux créateurs qui rentrent sur le site internet Kaleidosco, mais... Faut que ce soit un peu progressif, quoi.
Ouais. Disons que là, en fait, vous avez créé une structure juridique qui permettait un peu de s'autoporter, de vous porter, que vous portiez, finalement, qui a généré de fait en installation un petit doublon qui est celui du lieu.
Mmh.
Et là, aujourd'hui, que ça commence à se mouvoir parce que les fondations sont posées, finalement, vous avez votre travail personnel, l'entité Kaleidosco qui est un petit peu votre alliance à toutes les cinq, et le lieu que vous avez envie de faire vivre, qui est un lieu de rencontre et donc forcément qui amène potentiellement des allées et venues d'artistes, d'artisans, de designers, d'architectes potentiellement. Donc là, en fait, vous êtes en train de réfléchir à ce que peut être Kaleidosco dans cette nouvelle impulsion, quoi.
Ouais.
Donc la suite, là ?
On sait pas.
Cool.
Sans réflexion. Non, mais c'est vrai, il y a plein de perspectives différentes, de scénarios différents. Et c'est aussi un stress parce que nos vies privées aussi peuvent nous amener à nous éloigner de la Lorraine d'où on n'est pas originaire. Donc on est originaire, il y a que Angèle qui est des Vosges, mais sinon on est originaire de Lille, de banlieue parisienne et de Lyon. Et on n'avait pas de lieu commun. À la base, on est resté en Lorraine parce qu'on avait créé notre réseau en même temps que notre formation sur place et qu'on a trouvé ce bâtiment qui est super. Mais du coup, nos vies privées nous rappellent aussi dans d'autres régions et ça peut menacer l'équilibre du local, par exemple.
Mmh.
et du coup aussi de la coopérative. Donc il faut réfléchir à comment préserver les choses, quelles solutions envisager en fait pour que ça reste viable pour tout le monde.
Ok, voilà. En gros, d'être à 5, ça permet à chacun de développer ses compétences, ça permet de faire des choses super, et en même temps, c'est un équilibre constant à garder. Mmh. C'est peut-être là, enfin de ce que j'entends que vous disiez, c'est là où l'énergie se met quand même beaucoup pour garder cet équilibre et que chacune des 5 s'y retrouve.
Et je pense que pour créer un collectif, un autre conseil, c'est quand même mieux si les gens... sont vraiment déjà installés dans le même territoire. Parce que en ayant parlé aussi avec d'autres gens qui ont eu des aventures collectives, quand c'est fait à l'issue des études, et que du coup ça réunit des gens qui sont d'horizons différentes, en fait c'est comme un tremplin, mais ça a du mal à se cristalliser sur place.
Ouais.
Alors que quand c'est des gens qui vivent déjà sur un territoire depuis longtemps,
ils sont attachés,
se retrouvent les uns les autres pour créer un collectif, il y a plus de chances que ça dure. S'ils ont déjà leur vie de famille, leur maison, tout ça, qui sont sur place, mine de rien, c'est un facteur qui est super important, la vie extérieure, quoi.
Ok. Bon, bah super, merci les filles. Comment on peut vous trouver sur internet, à l'atelier, tout ça?
Kaleidosco.fr.
Donc,
Kaleidosco.fr.
Très bien. Et Facebook, Instagram,
c'est Kaleidosco.
Ouais.
Instagram Kaleidosco
vert.
Et l'atelier, il est à Favière, donc 54-115 en Meurthe-et-Moselle.
Ouais, super, merci les filles.
Merci.
Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à le dire, à l'interviewer dans ses réseaux sociaux. Je vais mettre les liens en description. Ça lui fera super plaisir. Ça permet de faire savoir que l'art, c'est les autres, est écouté. Et puis vous-même, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à faire des feedbacks. C'est hyper important pour moi. À proposer des invités aussi, ou des sujets qui vous intéressent. Et puis, je ferai mon possible pour vous répondre et échanger avec vous. Si vous êtes artiste et que vous avez envie de nous rejoindre dans le collectif Pigeon et Hirondelle, n'hésitez pas à nous laisser un message sur Instagram ou sur Facebook, donc pigeon.hirondelle, le tout au pluriel, ou bien sur notre site www.pigeon-hirondelle.fr. On sera super content d'en parler avec vous, de vous présenter toutes nos actions et pourquoi pas de vous compter parmi nous. Si vous connaissez quelqu'un à qui ce podcast peut plaire, je vous invite évidemment à le partager sur les réseaux. Ça permet à de plus en plus de gens de connaître le podcast. Et puis moi, ça me fait du bien. Voilà. Et ben, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine.